OK, on en est dans notre 63e leçon sur la théologie systématique. Aujourd'hui, on va voir la doctrine de la punition du péché. Alors, dans l'introduction de cette leçon, Gill aborde la question délicate et hautement émotive du sort éternel des bébés ou des enfants de bas âge qui meurent. Alors, la question qu'on peut se poser les concernant, c'est que sont-ils condamnés comme tous les autres pécheurs ou Dieu leur fait-il miséricorde d'une façon quelconque? Alors, si jamais vous fouillez sur ce sujet-là sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réponses qui sont données et il y en a beaucoup qui sont contradictoires. Alors, lui, ce que j'aime de John Gill, c'est qu'il est très scripturaire. Il répond vraiment à sa réputation. « Doesn't say a word without a verse », c'est qu'il ne dit pas un mot sans un verset. S'il ne trouve pas des versets pour appuyer sa doctrine, il demeure très prudent. Et face à cette doctrine-là, il a demeuré prudent. Parce que, à sa connaissance et à sa compréhension des Écritures, il est difficile d'être catégorique et dogmatique sur ce sujet. La Bible donne peu de détails et nous risquons de tomber dans la théologie du désir, c'est-à-dire lui faire dire ce que nous souhaitons. Alors, je me souviens que, quand on était à l'école biblique, on avait des fois des discussions sur ce sujet-là. Dans le fond, il y a à peu près juste le verset dans 1 Samuel où David, son bébé était mort, le bébé de Bathsheba était mort. Et là, il dit, il ne peut pas venir vers moi, je peux aller vers lui. Et il y en a qui ont interprété ça comme de quoi que les bébés vont automatiquement au ciel. Quand on regarde la confession de foi 1689, la confession de foi 1689 dit seulement les bébés élus. Alors, c'est possible que Dieu leur fasse miséricorde. Cependant, les versets pour appuyer la doctrine sont assez minces. Mais juste pour démontrer qu'il y a quand même une façon de voir les choses différentes, quand on regarde la confession de foi de Westminster, qui est presque l'équivalent de 1689, mais pour les presbytériens, eux, ils croient que tous les bébés et toutes les personnes qui sont malades mentales sont automatiquement sauvées. Moi, j'aime bien la position de Gill, autrement dit, la Bible ne dit pas grand-chose, on n'est pas sûr, mais lui, il dit, j'ai tendance à croire que Dieu est miséricordieux mais il dit, je ne peux pas dire catégoriquement que les bébés vont au ciel. Alors, il n'est pas d'accord avec ceux qui affirment qu'ils sont tous punis, comme tous les pécheurs, à cause du péché originel qui leur est imputé, même s'ils n'ont pas commis de péché actuel. C'est sûr que le seul péché qu'on peut leur reprocher à un bébé qui vient au monde, qui meurt, c'est qu'il a hérité de la nature pécheresse qui lui était imputée à cause d'Adam. Mais on ne peut pas dire qu'il a commis des péchés actuels. Il n'a pas eu le temps de les actualiser. Il est encore trop petit. Alors, il y en a qui meurent quasiment en sortant du sein de leur mère. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont tous sauvés. Puis, il y en a d'autres qui disent que c'est seulement les bébés qui seraient élus qui seraient sauvés. Alors, il n'est pas d'accord non plus avec ceux qui affirment que Dieu leur fait tous miséricorde. Cependant, il croit que Dieu est toujours infiniment juste, que nous devons accepter que cela fasse partie des choses secrètes de Dieu. Dans Deutéronome 29:29, ça dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alors, les Écritures elles-mêmes nous disent qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas entrer dans le conseil de Dieu. Dieu ne nous laisse pas entrer là. C'est des choses secrètes. Il dit les choses qui appartiennent à Dieu sont secrètes. Les choses qui appartiennent à l'homme, c'est la révélation. Donc, à quelque part, nous, ce que Dieu a voulu qu'on connaisse, il nous l'a mis dans les Saintes Écritures. Mais on n'a pas toutes les réponses à toutes nos questions. Lamentation 3:39 aussi qui dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? » Alors, la première chose qu'on va regarder quant à la punition du péché, c'est la punition temporelle. La punition temporelle, c'est simplement la punition qu'on reçoit dès cette terre. Alors, il y a une partie de cette punition qui s'exerce sur l'âme et une autre partie qui s'exerce sur le corps. Celle sur l'âme, c'est la perte de l'image de Dieu, la sainteté. Romains 3, versets 9 à 11 et verset 23. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme en péchant perdait cette image de la sainteté de Dieu qu'il avait avant sa chute. Autre chose qu'il perd temporellement, il perd son libre arbitre. Encore là, dépendamment de quelle façon on définit le libre arbitre, autrement dit, la Bible nous dit qu'il est maintenant esclave, esclave du monde, esclave de sa nature pécheresse, esclave du malin. Le libre arbitre, tel que ça dépend qui le définit, de quelle façon on le définit pour savoir, mais il l'a définitivement perdu. C'est que l'homme, après sa chute, n'est qu'enclin qu'au mal. Alors, 2 Pierre 2, versets 18 à 20. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire qu'à la première. Voyez-vous, dans le verset 19, ça dit, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quelqu'un qui est esclave, il n'y a pas grand libre arbitre, il est toujours en train de faire le mal. Autre chose qu'il perd, troisième chose qu'il perd, c'est la perte de la connaissance des choses divines. 1 Corinthiens 2,14 « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et aussi 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4 « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ou la perte de connaissance des choses divines, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et l'évangile est voilé pour lui. Alors il a perdu une certaine communion qu'il avait avec Dieu avant sa chute. Après sa chute, il devient aveuglé, il devient un homme animal, comme le texte le dit. Il ne reçoit pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Quatrième chose qu'il perd temporellement, c'est la perte de communion avec Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Galates 3, versets 23 et 24. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Cinquième chose qu'il perd temporellement, c'est la perte d'espérance. Éphésiens 2, versets 11 et 12. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc l'homme, après sa chute, perd l'espérance. Maintenant qu'on a vu les effets du péché, de la punition temporellement sur l'âme, nous allons regarder maintenant celle sur le corps. La première perte, c'est la perte de l'immortalité du corps. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors l'homme était immortel avant la chute. S'il n'avait pas péché, il aurait continué de vivre toujours. Et en chutant, ben, il a perdu l'immortalité de son corps. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Deuxième conséquence sur son corps, le travail avec sueur et fatigue. On en sait tous quelque chose, plus particulièrement les retraités. Job 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alors, les Écritures nous donnent une... C'est quand même une phrase assez puissante. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Alors, si tu fais un feu, il va y avoir des étincelles qui vont voler. Dès que tu fais un feu, il y a des étincelles. Dès que tu mets un être humain au monde, il commence à souffrir. Il va souffrir toute sa vie, d'une façon ou d'une autre. La vie va lui apporter des souffrances. Genèse 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc, le travail avec la sueur et la fatigue sont des conséquences du péché. Troisième conséquence pour le corps, c'est l'enfantement dans la douleur pour la femme. Genèse 3, verset 16. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit de la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. » Mais il dominera sur toi. Quatrième chose, la perte de domination. On sait qu'avant la chute, le Seigneur avait donné la domination sur les animaux, sur toute la nature, et après la chute, il l'a perdu. Ézéchiel 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Voyez-vous, avant la chute, l'homme se promenait dans le jardin, il y avait plein d'animaux, il n'y avait aucun animal qui lui faisait quelque mal que ce soit. Après la chute, les animaux sont devenus méchants envers l'homme. Donc, il a perdu la domination sur la nature, sur l'homme, sur les bêtes et les choses. Osée 2, verset 18. « En ce jour-là, « je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. » Voyez-vous, ici, l'Éternel démontre qu'il a le contrôle à la fois sur les reptiles, les oiseaux, les animaux, et qu'il peut s'en servir pour des jugements. Cinquième chose qu'il a perdu au point de vue de son corps, c'est les détresses que le péché lui amène. Et là, on pourrait discourir longtemps. Quand on regarde juste, par exemple, un passage, Deutéronome 27, versets 15 à 26, l'Éternel parle que si son peuple lui désobéit, il va se produire une multitude de choses. Il n'utilise pas des mots... il utilise des expressions assez sévères. Il dit « maudit ». Par exemple, dans le verset 15 de Deutéronome 27, il dit « maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Verset 16 « maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen ». Verset 17, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira « Amen ». Verset 18, « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira « Amen ». Verset 19. « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 20. « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 21. « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 22. « Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 23. « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 24. « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 25. « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Et tout le peuple dira « Amen ». Verset 26. « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen ». Voyez-vous, le peuple, Dieu leur envoyait comme des malédictions et les avertissait sur toutes sortes de péchés. Le peuple lui-même disait qu'il en soit ainsi, ce que tu dis. Et on sait qu'ils ont tombé dans tous ces péchés-là, sans exception, après. Alors, on voit que des fois, les peuples ne sont pas très conscients de leur faiblesse et aussi de la sévérité du Seigneur. Autre chose qui apporte des problèmes sur le corps de l'homme après la chute, ce qu'on appelle les calamités publiques. Les Saintes Écritures nous donnent une multitude d'exemples des jugements publics des hommes. Le déluge en est un exemple. Un deuxième, la destruction de Sodome et Gomorre. La troisième, la captivité des Juifs en Assyrie et à Babylone. Donc, les peuples ont tourné une centaine d'années après pour les distribuer pour Juda à Babylone. Donc, le Seigneur juge son peuple collectivement. C'est vraiment des calamités publiques. Et aussi, des destructions de villes et de nations. Alors, il y a des nations complètes qui ont été détruites dans l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, le Seigneur a détruit des nations et des villes au complet par des jugements. Il y a eu aussi des dévastations par les guerres, les famines, les pestes, les tremblements de terre, et toutes ces choses-là sont sous le contrôle de l'Éternel. Qu'on se souvienne juste, par exemple, des grandes pestes de l'Europe, je pense que le 13e, 14e, 15e siècle, il y a eu, je pense, 60 millions de personnes qui sont mortes en 200-300 ans. Et toutes ces choses-là, des calamités publiques comme ça, c'est des jugements que Dieu amène sur la terre et qui sont parfois très sévères. Septième, ben, la mort corporelle, celle-là, on la connaît tous. On a tous eu connaissance dans notre famille ou dans notre entourage, chez nos amis, dans nos milieux de travail, des gens qui sont morts. Et on sait que la mort est une réalité parce qu'on la vit. On entend parler à tous les jours, et quand on la vit personnellement, chez des êtres chers, on se souvient que tout ça, ça a des liens avec la chute de nos premiers parents. 1 Corinthiens 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Donc, on a vu l'aspect temporel de la punition du péché. Maintenant, on va regarder l'aspect la punition éternelle. Alors, premier point qu'on va regarder, c'est que l'âme seulement, jusqu'à la résurrection des corps, ça va être l'âme seulement qui va être punie. Actuellement, les personnes qui meurent et qui ne sont pas sauvées, ils s'en vont dans le Sheol, mais c'est seulement leur âme qui souffre. À la résurrection des corps, ils vont réunir l'âme et le corps, et à ce moment-là, ça sera les deux. Mais jusqu'à la résurrection des corps, c'est l'âme seulement. Luc 16, versets 22 et 23. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, tant qu'il n'y aura pas le jugement dernier, il n'est pas réuni avec son corps, mais ça va venir un jour. Il va y avoir une période dans l'histoire de l'humanité où les corps vont être réunis à la résurrection des corps, l'âme et le corps. À ce moment-là, l'âme et le corps seront jugés les deux ensemble. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Matthieu 10, verset 28. Le Seigneur lui-même nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et là, on arrive vraiment dans la partie qu'est-ce que les gens vont vivre en enfer pour l'éternité. On peut résumer ça par deux mots. En anglais, ils utilisent l'expression « deprivation of loss » et « the punishment of sins ». Donc, il y a un aspect, c'est tu vas sentir pour l'éternité la perte de quelque chose. Et ça va être très lourd. Et l'autre, ça va être la punition des sens. Donc, c'est la souffrance dans l'enfer. La punition, ce qu'on appelle de privation, c'est la privation de la présence de Dieu après l'avoir vu. Matthieu 25, verset 41. Donc, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les personnes vont être avec la présence des démons et des damnés pour l'éternité. Matthieu 25, verset 41. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Apocalypse 14, verset 9 à 11. « Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc vraiment la punition de privation, c'est qu'à la fin du monde, lorsque l'âme et le corps vont être ressuscités, tout le monde va voir Dieu. Et là, tout le monde va reconnaître que la punition que Dieu leur donne est juste. La Bible dit qu'ils vont ployer le genou, ils vont reconnaître, oui, c'est juste ce que tu nous donnes, mais ils vont aller en enfer. Mais la vue de l'Éternel ne les quittera jamais. Même en enfer, ils vont voir ça continuellement à l'esprit. Et ça va être semble-t-il que cette douleur-là va être aussi grande que celle des sens, celle qui va être, parce que les sens, si on a un corps, on a des sens, on a des yeux. Alors, la punition de sensation qu'on appelle « punishment of sense », ce sont les souffrances insupportables de tout l'être pour l'éternité. Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Les raisons de cette souffrance éternelle sont les suivantes. Les péchés ont été commis contre une personne éternelle et infinie, et aussi parce que les damnés, ayant encore leur nature pécheresse, continueront de pécher dans leurs outrages contre Dieu, en blasphémant et en continuant de haïr en enfer pour toute l'éternité. Fait que l'éternité n'aurait pas suffi pour que les souffrances qu'ils vont subir satisfassent Dieu. Imaginez-vous si en plus, il en rajoute tout le temps. Ils n'en sortiront jamais. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de la leçon d'aujourd'hui? Plusieurs, mais certainement au moins deux. La première, demandons au Seigneur de nous montrer et de nous faire comprendre toute l'étendue de la punition temporelle due au péché originel et au péché actuel et aux transgressions. Nous en acquérons ainsi une haine plus profonde et une meilleure repentance. Si on dit au Seigneur, montre-moi jusqu'à quel point le péché a affecté l'homme dans toutes ses dimensions, non seulement sur ma personne, sur mes amis, sur mon mari, sur toute la société, qui te montre avec plus de profondeur les conséquences du péché, c'est sûr que ça va nous amener à haïr le péché davantage. Plus on connaît les conséquences du péché, plus on en voit l'expression autour de nous quand Dieu nous ouvre l'esprit à la compréhension de ces choses et à la souffrance que ces choses-là amènent dans nos vies et dans la vie de tous les êtres humains. Plus on haït le péché et plus on a le goût de se repentir et de s'en éloigner. Deuxième application, supplions le Seigneur de nous convaincre absolument de cette terrible réalité de l'enfer. Le résultat devrait nous amener à partager l'Évangile avec plus de zèle, malgré les souffrances et le rejet que cela nous amènera. Je me souviens d'avoir lu un texte à un moment donné dans un livre. La personne disait, c'était un chrétien, puis il avait parlé avec un non-croyant de la réalité de l'enfer. Le non-croyant, il a dit, il l'a mis au défi, il a dit, si ce que tu dis là, c'est véritablement la vérité, là, c'est ben, il dit, moi, je peux te dire une chose, si j'étais pleinement convaincu de ça, il dit, je passerais le reste de mes jours sans perdre une seule minute à annoncer l'Évangile autour de moi tout le temps, sans arrêter. C'est drôle parce que l'effet que ça a eu sur l'autre, c'est qu'il dit, dans le fond, il est tellement conscient de ce que j'ai dit, même si ça ne l'amène pas à la repentance, que lui, il dit que si j'étais pleinement conscient de ce que tu me dis, je n'arrêterai pas de partager l'Évangile autour de moi parce que ce que tu me décris là, c'est une réalité terrible. Puis t'en vois plein autour de toi et tu ne les avertis pas. Il dit, moi, je passerai ma vie à les avertir. Alors, c'est comme quelque chose pour nous faire réfléchir. Plus on va connaître la réalité de l'enfer, plus cela devrait nous amener à partager l'Évangile avec zèle, malgré que ça va nous apporter du rejet, malgré que ça va nous apporter des souffrances. On est bien loin de... Il n'y a aucun être humain, même les plus grands évangélistes, ceux qui sont allés dans les pays les plus loin, je suis convaincu que si tu les aurais demandé à la fin de ta vie, est-ce que tu as suffisamment partagé l'Évangile, je suis convaincu que même les plus grands diraient non, j'aurais dû en faire encore plus. Alors, il n'y a personne qui a atteint la perfection, parce qu'on est tous manquants à cet effet-là. Mais cependant, on peut prier l'Éternel de nous donner une plus grande compréhension de cette dure réalité-là, et ça devrait nous amener à partager l'Évangile encore plus. Alors, louons le Seigneur pour sa justice. Amen.